Radio Kapi.
Journal part de cette décision du maire de la ville de Beni qui ne donne pas son accord en faveur des villes mortes que tentent d'initier des groupes de pression sur place. Il veut par cette action décrier l'imposition de l'état de siège, surtout pour ce qui est de ses résultats. Autre nouvelle d'actualité que nous vous proposons dans ce journal, c'est cette autre décision du gouverneur intérimaire du Sud Kivu qui fixe à 100.2 dollars le prix du billet d'avion Bukavu-Shabunda. Les détails, c'est tout de suite. Notre invité parle de la santé. Il s'agit du docteur Jérôme Munyangi qui s'entretient en fin de ce journal avec Florence Kizalunga sur son protocole nommé Articovid dans la prise en charge de la maladie due au Covid-19. Nous sommes fiers de la confiance que vous nous accordez pour votre information, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Dans le Nord Kivu, le maire de Beni s'oppose aux journées Ville Morte annoncées par les groupes de pression et mouvements citoyens. Ville Morte annoncées par les groupes de pression et mouvements citoyens qui veulent manifester contre l'état des sièges qu'ils jugent inefficace. Il évoque les dispositions contenues dans l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège. Suivez les explications de André Kitenge.
Dans sa correspondance adressée aux responsables de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression, le maire de la ville dit réserver un avis défavorable au sujet de cette série des journées ville morte et des grandes manifestations annoncées à Beni à partir de lundi prochain par les organisateurs. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé fait savoir aux organisateurs de ces manifestations que leur démarche est de nature à violer les dispositions de l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège instauré au Nord Kivu et en Ituri. Cette correspondance du maire de Beni répond à une lettre d'information qu'elle lui avait adressée, les groupes de pression et mouvements citoyens de Beni, notamment la Lucha, Cri du Peuple et la Véranda Mutsanga. Ces derniers déplorent les résultats de l'état de siège et des opérations militaires en cours dans la région, qu'ils jugent faibles. Ces organisations disent regretter de voir qu'au lieu d'apporter la paix, l'état de siège expose plutôt les civils au à l'escroquerie, aux arrestations arbitraires, au banditisme et à la criminalité urbaine. Il demande ainsi la fin de l'état de siège. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste relativement calme mais imprévisible, notamment dans le village de Gasiza, groupement Djomba en territoire des Rutshuru, et à Miriki au sud du territoire des Lubero. Constat fait hier jeudi par une mission héliportée de la MONUSCO conduite par son chef de bureau de Goma en charge. Ces zones sont régulièrement en proie aux attaques des groupes armés, notamment les présumés rebelles du M23 et les combattants d'une milice locale d'un certain Kabidon. Face à toutes ces menaces, la MONUSCO réaffirme sa volonté de poursuivre son mandat de la protection des civils dans ces zones. Gabriel Wamenya pour le reportage.
Dans la localité de Mukinga, village Kasiza, en groupement de Djomba, chefferie de Bwisha, la population civile a retrouvé son sourire. C'est comme le témoigne cet habitant.
Nous sommes ici un peu sécurisés parce que la fois passée, il y a eu des cartouches concernant les rebelles. Mais actuellement, vraiment, ça nous assure qu'à partir qu'ils ont arrivé ici, on entend de pas beaucoup de killers ici.
Au sud du territoire de Lubero, plus précisément à Miriki, en chefferie de Batangi, dernièrement théâtre des affrontements entre des factions rebelles, la quiétude s'est rétablie graduellement. Cet habitant explique. La situation sécuritaire à Miriki est calme, sauf c'est aux alentours que les FPP s'affrontent en Douma. De son côté, la MONUSCO salue l'amélioration de la situation sécuritaire, mais s'est dit toutefois confronté aux défis liés à l'accessibilité dans certaines zones faute d'infrastructures. Le chef de bureau de la MONUSCO à Goma, Julius Fandong, explique.
Le premier, c'est le mauvais état des routes qui freine leur mouvement et retarde leur intervention.
Notons que des missions conjointes, dites de proximité, seront organisées dans un futur proche, a indiqué Julius Fandong. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Parlons de cette note positive dans la province de l'Ituri, où on assiste à un retour progressif de certains déplacés qui avaient fui les atrocités des groupes armés dans leur milieu d'origine, notamment dans les chefferies de Basili et Boga dans les territoires d'Irumu. À en croire des habitants sur place, un calme relatif s'observe dans ces localités, malgré la crise économique qui frappe les populations. Pendant ce temps, les autorités provinciales encouragent le retour des déplacés dans la zone de Bambou dans le territoire des Djougou. Cependant, la société civile de l'Ituri exprime des réserves quant à ses retours qu'elle juge prématurés compte tenu de la situation sécuritaire toujours précaire dans ces localités. Le point avec Clarisse Ziindula.
Chaque semaine, c'est une vingtaine de personnes qui retournent à Boga Centre, affirment des habitants de cette localité du territoire de Irumu. Cependant, ces retournés sont dépourvus des moyens de subsistance, rapporte Aïcha Kirikaïdja, un relais communautaire du milieu. Elle invite le gouvernement et les humanitaires à venir en aide à cette population qui a tout perdu dans les atrocités des groupes armés.
Il y a un problème de crise économique, il n'y a pas à manger, point de vue médical, nous demandons seulement l'assistance pour les retourner, afin qu'ils puissent récupérer et recommencer leur vie encore.
Dans le territoire voisin de Djougou, les autorités provinciales encouragent le retour volontaire des populations déplacées des Bambou. Cependant, la société civile de l'Ituri estime que la paix n'est pas encore effective et la sécurité des personnes est loin d'être garantie. Dieudonné Lossa, son coordonnateur, juge prématuré ces retours et dit craindre que ces populations retournées ne soient à nouveau victimes des attaques de rebelles.
Et nous croyons que l'État a cette obligation de sécuriser la population et rassurer à la population qu'il y a effectivement la sécurité et non pas ramener les gens aujourd'hui et demain voir les gens fuir. Et pas qu'on a déjà vécu ça une fois.
Rappelons que le gouvernement diversifie les mécanismes pour renforcer le processus de paix en Ituri. Bounia, Clarisse Ziindula, Radio Okapi.
Un mot de l'économie. Sud Kivu, désormais le prix du billet d'avion entre Bukavu et Shabunda revient à 100.2 $ et pas plus. Décision annoncée à Bukavu hier jeudi par le gouverneur de province intérimaire. Il dit appliquer les dispositions de l'arrêté ministériel fixant les tarifs aériens sous les réseaux domestiques en RDC. Cette mesure réjouit la population du territoire de Shabunda qui a toujours dénoncé les prix exagérés du transport aérien à l'intérieur même du Sud Kivu. Michel Chirimwami.
La décision est contenue dans un communiqué officiel signé par le gouverneur ad intérim du Sud Kivu. Monsieur Théophile Kiloué dit exécuter les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 août 2021. Ainsi, le prix du billet d'avion entre Bukavu et Shabunda revient à 100.2 $ par passager. La population de Shabunda avait manifesté et dénoncé la hausse exagérée des frais aériens pour ravitailler les territoires enclavés de Shabunda. Ainsi, la société civile de Shabunda appelle les agences à souscrire à cette décision de l'autorité provinciale. Maître Joseph Mpeseni, président.
Nous sommes très contents avec la réaction du gouverneur des provinces qui a compris des difficultés du territoire de Shabunda, lesquelles a signé un communiqué officiel reconnaissant la baisse des prix à 100.2 $ pour les billets Bukavu-Shabunda, mais également avec les calculs simples qu'il fallait faire, on pourrait aller à 0.5 $ par kilogramme. Cela fait pour nous un ouf de soulagement. Mais il nous restait question maintenant de partager avec les aviateurs. Nous nous sommes rencontrés avec ces aviateurs.
Pour leur part, certaines agences de transport aérien justifient la hausse des prix par la rareté des aéronefs qui sont estimés à 3 au lieu de 7. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la hausse des prix de carburant dans la ville de Kindu a été une opportunité pour certains opérateurs économiques de se faire de l'argent. C'est le cas pour les armateurs qui, au lieu de 200 francs congolais, demandent 500 francs par passager pour la traversée des deux rives du fleuve Congo. Poussé par le gouvernement provincial de reprendre l'ancienne tarification de 200 francs, ces armateurs ont déclenché une grève momentanée l'avant-midi d'hier jeudi 20 janvier. Grève qui a perturbé le trafic entre les deux rives. Florence Kizalunga, reportage.
Cette grève momentanée des armateurs a créé un grand engouement de deux côtés de la rive et jusqu'à pénaliser les étudiants, commerçants, travailleurs et toute autre personne qui voulait traverser le fleuve Congo. Certaines personnes que nous avons rencontrées parlent d'une mauvaise foi des armateurs.
Je suis désolé de voir que les armateurs puissent se décider unilatéralement comme ça de déclencher un mouvement de grève pour leurs intérêts égoïstes. C'est parce que un prix du litre d'essence, le prix est arrivé jusqu'à 12 000, 13 000. Et ils avaient raison de rehausser le prix d'aller de 200 à 500 francs. Maintenant qu'aujourd'hui la situation a été maîtrisée, pourquoi ne pas aussi rabattre les prix? Cela a une incidence sur la vie socio-économique de la population.
C'est depuis le matin que je suis au beach ici. On n'arrive pas à traverser. Hein. Je travaille de l'autre côté, à la rive gauche. Je suis bloqué, je n'arrive pas à aller dans mon lieu de service. Et même les vendeuses et vendeurs des aliments n'arrivent pas à faire traverser leurs produits.
Saisi, le gouverneur ad intérim a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables de ces armateurs. Au sortir, ils se sont convenus de rabattre le prix à 200 francs congolais par passager, comme autrefois, avec d'autres avantages à ces armateurs, comme l'ajout de 2 sièges par pirogue pour leur permettre de couvrir les coûts. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Nous parlons enseignement dans la province du Maniema. Plus de 86 écoles visitées comme échantillon dans la sous-division de Kalima, un secteur des BIA en territoire de Pangui par les inspecteurs itinérants. Leurs bâtiments scolaires sont en état vétuste avec pléthore des effectifs scolaires. Révélation faite par l'inspecteur chef des poules du primaire Kalima à l'issue de la descente sur terrain dans ces écoles. Mission appuyée par le chef de secteur des BIA. Gengele Mukangala, Patrice, demande au gouvernement congolais de penser à construire d'autres bâtiments pour permettre aux enfants de bien apprendre. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
À l'issue de cette descente sur terrain, il a été vraiment constaté ce qui suit. Les bâtiments scolaires sont généralement en état de délabrement très avancé. Et il y a également absence quasi totale de matériel didactique. Et pour ceux qui en ont, l'usage est moins fréquent. Il a été également constaté qu'il y a pléthore des effectifs scolaires, surtout au degré élémentaire et moyen. Ceci étant la conséquence de la gratuité prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et enfin, il y a également insuffisance des sessions de formation pour la maîtrise des innovations pédagogiques. C'est à cet effet que je recommande au gouvernement central de construire de nouvelles salles de classe et procéder au dédoublement. Il faut également associer pour les sessions de formation tous les acteurs concernés. Nous voulons également à ce qu'il y ait une organisation qui reconnaît la rémunération de cette formation.
Sud Kivu à présent, la couverture vaccinale contre le Covid-19 reste très faible et représente environ 1% de la population attendue. Ainsi, la division provinciale de la santé invite la population du Sud Kivu à se faire vacciner contre le Covid-19. Cela en prévision de la nouvelle phase de vaccination qui commence le lundi 24 janvier prochain. Selon Dr Claude Baïziré, chargé des communications de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, la faible couverture vaccinale actuelle ne permet pas d'endiguer la propagation du coronavirus. Les propos de Dr Claude Baïziré ont été recueillis par Cynthia Bachizine Nabizane.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que autour de 15 000 personnes qui se sont fait vacciner contre Covid-19. Or, nous avons besoin de vacciner au moins 70 à 80% de personnes pour nous rassurer l'immunité collective et voir comment est-ce que nous pouvons en finir avec Covid-19. C'est ainsi que il fallait ajouter le nombre de suites. Nous avons passé des commandes de vaccins en quantité suffisante, mais pour le moment, nous sommes en rupture du vaccin Moderna, mais nous avons passé la commande, nous espérons que pendant la phase de la campagne, nous aurons déjà une quantité aussi commandée de Moderna. Mais nous avons pour le moment Pfizer, nous avons le vaccin Sinovac et nous avons aussi Johnson & Johnson qui sont déjà dans la province. Et nous sommes en train déjà de dispatcher ces vaccins dans les zones de santé qui sont concernées par la campagne, les 20 zones. On est sûr que la population a compris le bien fondé de cette vaccination parce que la vie continue à être très difficile à cause de Covid.
Dans le secteur de Rwenzori, plusieurs champs de la population ont été dévastés par les éléphants du parc national des Virunga. Les organisations environnementales ainsi que celles de la société civile demandent aux responsables de l'ICCN de prendre leurs responsabilités en main afin de bien garder ces animaux pour ne plus détruire les champs de la population. Marc Marofimbo pour des précisions.
La deuxième semaine du mois de janvier en cours a été catastrophique pour les cultivateurs des villages Kanyati, Mihende et Ruyeti en secteur de Rwenzori. Selon l'Organisation pour l'accatrement des agriculteurs et de défense des droits de l'homme, OADH, c'est la 11e dévastation des champs par ces éléphants en 10 mois. Merveille Kikwaya, membre de cette organisation, estime qu'il est temps que les responsables de l'Institut pour la conservation de la nature, ICCN, prennent des mesures idoines afin de protéger ces animaux ainsi que leurs champs. Elle pointe également du doigt les éco-gardes du parc national de Virunga pour ce qu'elle qualifie d'insuffisance des formations sur le vrai sens de la conservation de la nature. Les responsables de l'ICCN promettent de se prononcer incessamment sur cette situation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Commémoration de la création de l'armée au Mali, pour ce 61e anniversaire, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a assisté au défilé des troupes avant de faire un discours. Il a évoqué la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées récemment, a déclaré le président par intérim, le colonel Assimi Goïta. Jeudi, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir repris ses vols sur la région du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Ils avaient jusqu'alors été suspendus dans l'attente de pourparler avec la junte. Au Ghana, collision entre un camion chargé d'explosifs et une moto jeudi dans la partie ouest du pays. Le choc a provoqué une immense déflagration et tué plusieurs personnes. Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et 59 blessés, dont certains dans un état critique. L'accident s'est produit vers midi à Apiate, à 300 km de la capitale. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé à propos de l'accident quelques heures plus tard sur Twitter.
L'invité.
Docteur Jérôme Mounyangi Wankola, clinicien, spécialiste en recherche et innovation des soins, est notre invité. Il a présenté et expliqué le vendredi 14 janvier au grand public le protocole Articovid dans une matinée scientifique. Il s'entretient sur ce protocole avec Florence Kizalunga. Suivez.
Docteur Jérôme Mounyangi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Vous venez d'animer une matinée scientifique sur les évidences cliniques et biologiques des Articovid dans la prise en charge de l'infection Covid-19. Quel sens que vous donnez à cette activité?
Bon, cette activité s'inscrit vraiment dans le cadre de nos recherches. Nous avions mené depuis 2020 que nous avions ouvert les sites de notre essai clinique ici à Kindu et aujourd'hui nous avons de premiers résultats de notre produit dans le traitement de Covid-19, donc Articovid, et on devait parler pour montrer ce que nous avons déjà fait et nous avons sollicité aux autorités des régulations l'amendement de notre protocole pour que nous passions à une autre phase, donc la phase 3 de notre essai clinique. On devait partager aussi avec la communauté scientifique provinciale et surtout l'équipe de prise en charge de COVID localement sur les nouvelles recommandations des autorités nationales et internationales, comme nous travaillons aussi sous le contrôle du protocole de l'Organisation mondiale de la santé.
Et quelle a été la réaction de la communauté par rapport à votre recherche de votre produit ici au Maniement?
D'abord, là, certes, il y a certaines hostilités. C'est pas d'autres prestataires de soins, mais les produits se comportent très bien parce que comme nous l'avons constaté ailleurs et nous venons de le constater au Maniema, les personnels de santé sont les personnes les plus exposées. C'est une catégorie de population la plus exposée à cette infection de Covid. Donc, parmi nos malades ici au Maniema, à Kindu, il y a eu beaucoup de personnel soignants, de médecins, des infirmiers, des laborantins, des biologistes qui ont été touchés par cette maladie et qui ont été soignés par des protocoles anti-Covid. Donc, nous avons vraiment trouvé cet accueil favorable de la communauté scientifique provinciale et nous avons réfléchi comment nous pouvons améliorer la prise en charge des Covid avec des solutions congolaises.
Docteur, à part la province du Maniema, où avez-vous encore mené votre recherche?
Nous avions commencé notre recherche sur le site de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi qui a été le premier site où nous avons travaillé et après on est parti à Bunia, Goma, Bukavu aussi et au Maniema. Donc il y a plusieurs provinces, la province que je viens de citer. Ce sont les provinces qui sont concernées par nos recherches de Covid-19 ou la ville provinciale de Kinshasa, comme nous avons quelques cas dans la province de Kinshasa. Et les résultats sont toujours bons, satisfaisants, ce qui nous encourage à continuer et surtout à passer à des phases supérieures de notre recherche.
À part Articovid, vous avez aussi présenté un autre produit qui est Artipali. Vous êtes à quel niveau avec votre recherche?
Merci vraiment. Nous sommes revenus un peu sur la recherche du paludisme. Actuellement, avec la pandémie de Covid-19, il y a un peu de recul dans la lutte contre le paludisme. Or, c'est notre fléau, c'est notre ennemi mortel. Et aujourd'hui, je peux dire que nous assistons à une augmentation des cas de malaria partout sur le continent africain. Et la RDC, une fois de plus, a été classée deuxième sur le continent africain après le Nigeria. malaria où il y a beaucoup de cas de la malaria. Donc nous avons déjà fini notre recherche du produit, donc il est déjà là, Artipalu. Nous sommes dans la province pour présenter aussi ces nouveaux produits qui vient renforcer l'arsenal thérapeutique congolais et qui va passer bien sûr dans les phases des essais cliniques comme le recommande l'autorité des régulations congolaises.
Docteur Munyengi, pour mener à bon port votre recherche, qu'est-ce que vous avez comme demande à la communauté scientifique?
La communauté scientifique seulement de nous accompagner. Certes, le métier du chercheur n'est pas facile. Personne ne peut faire la recherche seul. Nous pouvons faire la recherche qu'avec une équipe interdisciplinaire, donc toutes les disciplines, toutes les personnes désireuses d'apprendre ou de nous apporter un plus dans ces recherches sur le plan national qu'international, et aussi des contributions parce que nous sommes une fondation. Les gens qui veulent appuyer aussi la lutte contre la malaria ou la lutte contre d'autres pathologies sur lesquelles nous sommes en train de travailler, la porte elle est ouverte pour que nous puissions répondre à cette invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de que les solutions africaines soient trouvées aux problèmes africains, les solutions congolaises soient trouvées aussi aux problèmes congolais. Et nous travaillons dans ces domaines de recherche médicale. La porte elle est ouverte et nous sommes là pour écouter et recevoir les critiques, les observations pour que nous puissions nous améliorer et apporter des solutions à nos problèmes sanitaires en RDC.
Docteur Jérôme Nyangui, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Ça en est ainsi fini avec cette édition vespérale sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres durant ces 20 minutes d'information. Continuez toujours à vous informer sur www.radiookapi.net tout en vous signalant que ce journal a été préparé par Richard Junior Kamunga et l'ensemble de la rédaction. Billy Yvan Lutumba était devant ce micro pour la présentation.